Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire ce soir, affaire Bukanga Lonzo, les sénateurs Augustin Matata Mponyo dénoncent l'utilisation de la justice par le pouvoir pour l'éliminer de la course présidentielle prévue en décembre de cette année. L'ancien Premier ministre dénonce l'illégalité et l'irrégularité d'un nouveau réquisitoire pour la levée de ses immunités au Sénat. À Calais, au sud Kivu, poursuite des travaux pour la réouverture de la route nationale numéro 2, Bukavu-Goma, entre Bouchouchou et Nyamukubi. Une situation qui fait suite aux inondations et éboulements meurtriers du mois de mai dernier dans ces deux villages. L'invité de ce journal est le chargé de la coopération du CICR Sud Kivu et Maniema. Théo Bélessi parle de l'appui de la Croix-Rouge en collaboration avec les CICR dans la sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Affaire Bukanga Lonzo. Le sénateur Augustin Matata Mponyo dénonce l'utilisation de la justice par le pouvoir en place pour l'éliminer de la course présidentielle prévue en décembre de cette année. Dans un point de presse tenu ce mercredi à Kinshasa, l'ancien Premier ministre dénonce l'illégalité et l'irrégularité d'un nouveau réquisitoire pour la levée de ses immunités au Sénat. Il appelle le président du Sénat et les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle qu'il accuse d'entreprendre cette démarche anticonstitutionnelle de respecter la loi du pays. On écoute Matata Mponyo au micro de Grâce Amzati.
Ce duo se remet en place pour une énième violation des lois et règlements de la République démocratique du Congo pour concocter en toute illégalité, en toute tricherie et irrégularité le plan pour l'émission d'un nouveau réquisitoire pour solliciter, après avoir stratégiquement mis à l'écart l'Assemblée plénière, organe habilité sur la question, la levée des immunités du sénateur Matata. Le Sénat, par malice, attend que la session se ferme. Et coïncidence hasardeuse pour certains, mais coïncidence intelligente pour d'autres, c'est le même jour, la session se ferme à 18h et à 18h30, le procureur général Mukolo dépose la demande de levée des immunités pour le dossier des biens aériens. Contre toute attente, et en dépit du point de vue du magistrat instructeur, le procureur général Mukolo, dans un élan de démonstration des forces politiques et de biceps, avait tout de même saisi la cour constitutionnelle sur le dossier Bukanga Lonzo, sans m'avoir entendu, et contre la décision de la plénière.
Notez par ailleurs que Matata Mponyo affirme avoir porté plainte contre le président du Sénat, Barati Lukwebo, car dit-il, ce dernier viole la constitution et les lois du pays dans le but de m'éliminer politiquement des élections présidentielles en faveur de son candidat Tshisekedi. L'ancien Premier ministre dit par ailleurs avoir retiré toute sa confiance du bureau du Sénat et de son président, Barati Lukwebo. Pendant ce temps, Ensemble pour la République dénonce et condamne ce qu'il qualifie d'enlèvement de Franck Diongo, président du parti politique Mouvement Lumumbiste et Progressiste, MLP. Lors d'une conférence de presse animée ce mercredi au siège du parti Sierra Moïse Katumbi, le député national Gracien de Saint-Nicolas Irachan a décrié les méthodes utilisées par les services de sécurité pour procéder à des interpellations. Pour lui, il s'agit là d'une forme d'intimidation pour museler l'opposition. Il appelle par ailleurs les chefs de l'État à faire cesser cette dérive qui prend de l'ampleur dans un pays qui aspire à devenir un État de droit. Gracien de Saint-Nicolas Irachan est au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous sommes en train de dénoncer ce système où aujourd'hui l'opposition se sent en insécurité totale. Ce système-là ne nous inspire plus confiance à la démocratie. Vous voyez aujourd'hui le cas de Franck Diongo. On voit des mouvements de véhicules qui les poursuivent et paf, un groupe déjà, on les prend, on l'amène destination inconnue. Nous sommes face quand même à un pays qui était en train de voler comme un État de droit, un pays démocratique. Mais avec cette façon de faire, nous tous, nous sommes à l'insécurité. Nous, des Ensemble pour la République, nous sommes très inquiets de cette procédure actuelle, de procéder à l'enlèvement des individus et après ouvrir des enquêtes. Nous respectons nos services de renseignement pour travailler proprement quand il y a des problèmes. Il y a une façon régulée par la loi pour procéder à des interpellations des citoyens congolais. Dans tout ça, nous n'avons pas peur. Nous allons continuer le combat.
Et puis la manifestation prévue pour ce 22 juin en Ituri en vue de faire pression sur le gouvernement congolais et les Nations Unies n'aura plus lieu. En effet, d'après les députés nationaux Gracien Dessin-Nicolas Irachan, membre d'organisation de ce mouvement, il était question d'évaluer si les recommandations et les revendications formulées et remises dans un mémorandum au bureau de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC à Bunia, en Ituri, lors de la première manifestation étaient prises en compte. Ces recommandations exigeaient aux Nations Unies de mettre fin aux atrocités à travers des résolutions contraignantes sur le gouvernement congolais et aussi à travers des résolutions contraignantes sur les États membres en rapport avec la situation des droits humains. Au dire du député Gracien Dessin-Nicolas Irachan, lors d'une conférence de presse ce mercredi à Kinshasa, il y a eu tout de même des signaux positifs sur le terrain qui ont milité pour le report de cette manifestation. On l'écoute au micro de Jacques-Yves Molima.
Et à constater des avancées sur terrain par rapport à ces mémorandums, notamment l'organisation aujourd'hui de la table ronde pour étudier les voies et moyens de requalifier l'état de siège contesté par la population, notamment les dialogues entre les groupes armés, leurs leaders dans les territoires d'Arou, qui, nous espérons, vont apporter des solutions, constatant la présence du procureur de la Cour pénale internationale des passages en Ituri, également la présence sur terrain du secrétaire général des Nations Unies, adjoint chargé des opérations et maintien de la paix dans le territoire de Ndjougou. Nous avons donc décidé de reporter notre manifestation qui devrait avoir lieu le 22 juin 2023 après celle qui a eu lieu le 20 avril 2023.
Les forces conjointes FARDC armées ougandaises se sont engagées à intensifier les opérations de traque des rebelles des ADF dans la partie ouest de la route nationale numéro 4 dans les territoires d'Irumu en Ituri. C'est après le meurtre par ce groupe armé il y a 5 jours des 37 écoliers du lycée Pondoué dans la région de Bouera en Ouganda. Cette décision prise de commun accord avec les autorités congolaises est contenue dans un communiqué de presse du président ougandais Yoweri Museveni publié le 18 juin dernier. Martial Kizabiamungu résume le contenu de cette correspondance.
Dans ce document de 3 pages, le président ougandais revient sur les succès, selon lui, de l'opération Shuja qui se déroule le conjointement entre son armée et le FARDC dans les territoires d'Irumu en Ituri et de Beni dans le Nord Kivu. Yoweri Museveni cite par exemple l'élimination de quelques leaders rebelles des ADF et le démantèlement de plusieurs bastions dans la forêt de Zunguluka et de Mwalika. Il ajoute qu'avant l'opération Shuja, toutes les zones ouest et sud de la montagne de Rwenzori, côté congolais, étaient plus ou moins contrôlés par les ADF où ils exploitaient des minerais et cultivaient des cacao. Le président Yoweri Museveni déplore les massacres des 37 écoliers du lycée Pondoué dans les districts de Kasese par des ADF à provenance de la forêt frontalière entre la RDC avec son pays. Pour faire face à cette menace commune, il affirme que le gouvernement congolais a autorisé à l'armée ougandaise à élargir sa zone d'action à l'ouest de la route nationale numéro 4. Le chef de l'État ougandais déplore le manque de vigilance et certaines faillances sécuritaires en RDC et en Ouganda après les tueries et par des ADF des élèves à Bouira, village frontalière avec la RDC. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Le chef d'état-major général des FARDC a rappelé à l'ordre des militaires en mettant l'accent notamment sur la discipline qui doit caractériser tout soldat. C'était au cours de la parade organisée le week-end dernier au camp colonel Kokolo à Kinshasa. Jean Gandou revient sur les grandes lignes de cette causerie morale du lieutenant général Christian Tshiwewe.
Le lieutenant général Christian Tshiwewe a commencé par rappeler la devise de l'armée qui est de ne jamais trahir le pays. C'était avant de revenir sur les missions de l'armée qui sont la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la protection des civils. Il a aussi fustigé tout ce qui complote avec l'ennemi en lui fournissant tous les renseignements. Cela est d'après lui contraire à la loyauté qui doit caractériser les militaires. Pour le lieutenant général Christian Tshiwewe, il y a des traîtres au sein de l'armée et cela à tous les niveaux. Par ailleurs, il a rappelé que l'armée est apolitique. Par la même occasion, il a mis en garde les politiciens qui amènent les militaires à se départir de cette exigence. Le chef d'état-major général des FARDC a aussi appelé les militaires à la discipline. C'est ainsi qu'il a déploré et condamné ce qu'il a qualifié d'utilisation abusive des militaires. Pour lui, la loi dispose que seul le président de la République, en tant que commandant suprême des forces armées de la police, doit être sécurisé par les militaires. En dehors de lui, il y a le vice-premier ministre et ministre de la Défense. Les autres doivent recourir aux policiers. En outre, il a insisté pour que les militaires quittent les sites miniers. Il a promis d'envoyer dans tous les prochains jours une mission de contrôle à cette fin. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
À Calais, dans le sud Kivu, poursuite des travaux pour la réouverture de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Goma, route entre Mbushushu et Nyamukubi. Bien qu'accessible aux motos, ce tronçon est encore impraticable aux voitures. Une situation qui fait suite aux inondations et éboulements meurtriers deux mois de mai dernier dans le village de Bouchouchou et Nyamukubi. Plus de détails avec Cynthia Bachizina Bizana.
D'après l'administrateur de territoire, les travaux sont surtout ralentis par des corps sans vie que l'on continue de retrouver dans les décombres. Thomas Bakinga.
Les motos déjà quittent directement Nyamukubi, traversent là très facilement. Le seul souci qu'il y a, c'est parce qu'il y a encore des corps dans le décombre par moment. Le temps qu'on essaie de nettoyer les corps qu'on trouve, le temps de l'inhumer, s'il y en a eu deux, s'il y en a eu trois, on ne va pas aussi aller avec une vitesse. Pour autant qu'il y a des corps qu'on a d'abord enlevés et les enterrer. Mais sinon, l'ingénieur qui est là, il nous a promis qu'il va y aller progressivement et dans un temps record.
Toujours en rapport avec ces catastrophes, les sinistrés devraient être délocalisés vers l'aérodrome de Loako. C'est ce site qui a été choisi à cette fin par le gouvernement provincial. Mais la situation est un peu plus complexe car certains sinistrés refusent de s'y installer. L'aérodrome de Loako jugé éloigné de leur centre d'intérêt. Cette délocalisation est provisoire, le temps de trouver un compromis avec des propriétaires terriens pour une solution définitive a tenu à rassurer Tipson Idumbo, porte-parole du gouvernement provincial. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Le 20 juin de chaque année, le monde célèbre la journée des réfugiés. C'est pour susciter la prise de conscience de la communauté pour venir en aide à ces personnes qui ont quitté leur pays pour trouver asile ailleurs. Dans la région de Beni, au Nord Kivu, vivent des dizaines de milliers de déplacés. Certains ont fui la guerre dans leur village et d'autres viennent de la province voisine de l'Ituri. Tous se recommandent au gouvernement de pacifier leur région pour leur permettre d'y retourner. Guylaine Kassassia a rencontré certains de ces déplacés dans un site à Beni. Voici son reportage.
Dans le site de Kassabignole où nous avons été, la vie des déplacés est difficile. Ici, ils sont une dizaine de familles avec auprès de 50 personnes dans un bâtiment de 10 cellules en planches construites dans la concession de l'église anglicane. Chaque famille a droit à deux petites cellules. Mais comment font-ils pour survivre? Eva Paulina, veuve, a perdu tous les membres de sa famille. Elle explique le calvaire qu'elle entoure depuis 4 mois qu'elle est arrivée de Ringeti.
On a tué tous les membres de ma famille. Je suis veuve. Je passe à travers la ville pour chercher quelqu'un qui peut m'occuper par un petit service champêtre. Une fois, il donne du sombé et une mesurette d'huile. Cela ne suffit pour une nuit. Nous avons besoin d'une aide car ayant tout abandonné, que le gouvernement rétablisse la paix dans nos entités.
Malgré les efforts fournis dans le cadre de l'autoprise en charge, ces déplacés écoulent difficilement leurs marchandises car certains autochtones se méfient de leurs articles. C'est ce qu'est dit Kabu Kaviro.
J'ai eu un fond entassé dans deux cellules. Je vends des cossettes de manioc, même si on essaye d'étaler quelques articles. Malheureusement, les clients partent acheter chez leurs amis. C'est un problème. Les déplacés sont moins considérés ici.
Ces déplacés disent avoir du mal à sauver leurs enfants qui passent la journée dans la ville à mendier ou à s'adonner à de petites activités. Beni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
La réforme du statut des magistrats au cœur du débat à Zongo entre députés, sénateurs, conseil supérieur de la magistrature, ministère de la justice et la société civile. C'est alors que les parlementaires plaident pour que le mode de recrutement des magistrats et leur régime disciplinaire soient réformés. Les magistrats s'opposent à toute tentative de saper leur indépendance au profit du ministère de la justice. Des détails avec Michel Kifindangoy.
Au regard de la situation actuelle et des dérapages enregistrés dans le secteur judiciaire, il y a nécessité d'amorcer des réformes du statut des magistrats, soutient le député national Gary Sakata.
Et cette réforme doit commencer par les règles relatives à l'accès à la fonction ou à la profession, et ça doit passer par l'exercice même de la profession. Nous devons renforcer les régimes disciplinaires. La discipline des pairs n'a pas payé. Nous devons donc modifier les modalités des sanctions à l'encontre des magistrats véreux et indisciplinés.
De leur côté, les délégués du Conseil supérieur de la magistrature jugent inopportune cette réforme amorcée au Sénat. Issofan Kanga, président du syndicat autonome des magistrats.
Aujourd'hui, c'est la seule institution qui, depuis 2006, n'est pas totalement installée. Alors que l'exécutif l'est déjà, le Parlement l'est déjà, mais le pouvoir judiciaire ne l'est toujours pas. On va réformer quoi? Réformer une structure qui n'est pas totalement mise en place. Donc je crois que commence d'abord par mettre cette structure en place. Or, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est inopportun.
Les magistrats s'opposent à toute réforme visant à donner au ministre de la Justice un pouvoir de contrôle sur les magistrats de parquet, ce qui, selon eux, violerait l'indépendance du pouvoir judiciaire consacré par la Constitution de 2006. Ils plaident plutôt pour la dotation des moyens conséquents pour le fonctionnement de cette institution.
Actualité, Afrique Monde.
Au Soudan, le nombre de personnes ayant fui les combats dépasse les 500 000 et celui des déplacés dans le pays a atteint 2 millions, a révélé hier mardi le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés ACR. De plus, 25 des 48 millions de Soudanais ne peuvent survivre sans aide humanitaire. Filippo Grandi a appelé à un élan de générosité envers ce pays à partir de Nairobi au Kenya à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. En Libye, l'organe de lutte contre l'immigration clandestine a envoyé hier mardi au Nigeria 165 migrants nigériens, dont des femmes et enfants. Ce, en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, dans le cadre officiellement d'un retour volontaire, selon un responsable.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chargé de la coopération du CICR Sud Kivu et Maniema, Théo Bélessi, parle de l'appui de la Croix-Rouge en collaboration avec le CICR dans la sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Au Maniema, cette sensibilisation visait à amener les femmes notamment à dénoncer des cas de viol auprès des structures de référencement. Théo Bélessi s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Théo Bélessi, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi sensibiliser aujourd'hui les femmes sur les violences sexuelles basées sur le genre?
Oui, d'abord c'est parce que aujourd'hui au niveau international, c'est la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles, raison pour laquelle le CICR a saisi cette occasion pour appuyer la Croix de la RDC à faire les sensibilisations ici à Kindu. Donc la cible c'est toutes personnes, hommes, femmes de la province du Maniema qui sont concernés par cette sensibilisation.
Parlons de violences basées sur les genres. Il y a combien de types de violences?
Bon, il y en a plusieurs. Il y a notamment les violences sexuelles. Il y a aussi les violences domestiques. Les violences domestiques, ce sont des violences qui se font par les hommes avec leurs femmes. Par exemple, des comportements des hommes, n'est-ce pas, de menacer leurs femmes à la maison et qu'on sort. Il y a aussi des violences psychologiques. Avec la violence psychologique, ce sont des traumatismes que les hommes font qui traumatisent les femmes parce qu'ils sont femmes. Et puis, il y a aussi l'harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel, ce sont tous les gestes, tous qui pousse l'homme ou la femme pour amener son partenaire à faire un rapport sexuel ou à l'exciter, à l'amener à faire un rapport sexuel.
En vous entendant parler, c'est comme si c'est seulement les femmes qui sont violées. Les hommes ne sont pas violés?
Bien sûr, c'est la question que nous avons posée aussi aujourd'hui aux participants. Les hommes sont aussi violés. Comment? Parce que si une femme, par exemple, fait des gestes qui attirent l'homme vers elle pour commettre des actes sexuels, là aussi c'est une violence. Il y a aussi des violences verbales de femmes envers les hommes, ce sont des violences. Donc tous ces paquets-là, ce sont des violences faites aux hommes.
Je vous comprends. Il y a certes les femmes et les hommes qui sont violés, mais surtout plus les femmes. Les victimes n'arrivent pas quand même à dénoncer. Comment faire pour le pousser, les aider à le faire?
Ah, bien sûr, c'est une très bonne question. Très souvent parce que une violence sexuelle, c'est un acte de honte pour la femme. C'est un acte qui humilie. Et puis, très souvent, les femmes qui connaissent les cas, par exemple, de violence sexuelle, très souvent, ils se taisent. Les femmes n'arrivent pas à dénoncer parce que ce sont des actes de honte. Mais toutefois, nous avons sensibilisé les participants et participantes. Nous leur avons montré certains sites de référencement ici dans la ville de Kindu. Il y a notamment Ouaki, il y a aussi Île Africa, il y a aussi la division commissaire et du genre, il y a aussi la fondation Femmes Plus. Donc ce sont des structures. Si les femmes sont violées, il faut ou plus tard les 72 heures, il faut l'orienter déjà vers ces structures-là pour permettre à ce qu'ils puissent avoir des soins appropriés. Et les soins appropriés vont les empêcher, par exemple, si elle était violée, pour ne pas avoir une grossesse, par exemple, indésirable, pour avoir, par exemple, une maladie. Et puis, s'il est déjà pris en charge par une structure, ça va lui prévenir déjà de toutes ces situations. Et il y a aussi, très souvent, quand les femmes sont violées dans nos quartiers, dans nos familles, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à résoudre le problème à l'amiable. Et là, pendant la séance, les mamans nous ont dit que non, quelquefois, les bourreaux de ces filles-là ou de ces femmes-là, on les arrête quelques temps après, on les relâche, on les voit dans la cité en train de circuler. Raison pour laquelle là, on a demandé à ce que, quand la femme a des difficultés, a des problèmes, ils peuvent contacter certaines structures qui s'occupent de faire justice aux victimes. Il y a par exemple la prise en charge juridique, il y a par exemple Afejiko, qui est ici à Kindu. Donc si on veut poursuivre les bourreaux au niveau de la justice, on peut se présenter auprès de cette structure-là qui va les orienter, les conseiller pour voir comment on peut poursuivre les bourreaux au niveau de la justice.
Maintenant, selon vous, que faire alors pour mettre fin aux violences sexuelles basées sur les genres?
La première chose, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser tout le monde, les hommes et les femmes. Donc, on doit commencer la sensibilisation à partir de la famille pour permettre à ce que tout le monde sache déjà que on doit mettre fin aux violences basées sur les genres. C'est-à-dire, on doit éviter de violer toutes ces personnes féminines parce que les violences qu'on fait sur la femme, ça l'humilie et ça peut même créer des problèmes jusqu'au niveau des foyers. Si c'est une femme mariée, ça peut poser énormément de problèmes.
Monsieur Théo Bélessi, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
C'était notre invité, le chargé de la coopération du CICR Sud Kivu et Maniema, Théo Bélessi, s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.